dans lequel Ishmael est né, je vous rappelle très brièvement, il y a, en schématisant beaucoup, parce qu'il faudrait voir le texte, c'est pas si simple que cela, il y a une sorte de, ce que j'ai appelé un fléchissement de la confiance, de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham et Sarah qu'ils auraient un enfant. Et entre-temps, Ishmael est né, lorsque Sarah a pris l'initiative de proposer à Abraham de continuer une lignée à travers Agar. J'ai souvent entendu qu'on emploie le mot de doute à propos de l'attitude d'Abraham. Je crois que c'est une erreur, parce qu'il y a beaucoup de sources qui reviennent là-dessus, sur le verset de Bamé Edar Kirachena, lorsqu'Abraham a demandé « Mais en quoi saurais-je que vraiment je vais hériter de cette terre, puisque je n'ai pas de descendance ?» C'est moi qui ajoute « puisque je n'ai pas de descendance », c'est lié. Et très souvent en français, on dit qu'Abraham a douté. C'est faux, il n'y a pas eu de doute. À la rigueur, il y a une perplexité. Et s'il y a doute, c'est pas que Abraham n'a pas eu confiance dans la promesse que Dieu lui fait à lui, en tant que c'est une promesse que Dieu lui fait. Il n'a pas eu suffisamment de courage de penser qu'il méritait cette confiance. S'il y a doute, et je crois pas que le mot soit à sa place, s'il y a doute, c'est un doute sur lui-même et pas en Dieu qui promet. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors, méfiez-vous de cela. En particulier, il y a tout un chapitre du Maharal qui revient là-dessus. Et sur lequel on peut se tromper, parce que dès qu'on traduit en français, il y a ce terme de doute qui risque d'apparaître. Or, le doute est une faute, et en Abraham, il n'y a pas de faute de ce genre, c'est Rosh Hashanah, c'est le père des croyants, on va dire des confiants. Je préférais le mot de perplexité. Mais malgré tout, si vous arrivez d'entendre ou d'employer le mot de doute, retenez cela, il n'y a qu'à inverser le problème. Abraham n'a pas douté de Dieu, mais de lui-même. Et lorsque ce doute de soi, qui était une vertu chez Abraham, c'est une vertu d'humilité, parce qu'Abraham, c'est le commencement des promesses. Et donc, c'est normal qu'au commencement, il y ait cette perplexité qui vient de l'humilité, c'est une vertu en Abraham, une vertu absolue. Mais lorsque ce doute de soi apparaît dans sa descendance, alors ça joue en faute, mais pas en Abraham. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Parce que, vous savez, il y a une expression que vous entendrez souvent, le zchut avot, le mérite des pères. On peut utiliser cette expression dans beaucoup de sujets, surtout de moussard, de morale. C'est une vertu de reconnaître le mérite des pères en tant qu'ils ont été des pères. Mais par rapport à notre sujet, je voudrais ajouter quelque chose de plus précis. Le mérite des pères, c'est d'avoir commencé une route dont ils ne savaient pas où elle menait, en confiance. Je ne veux pas dire aveugle, mais inconditionnel. Parce qu'ils n'avaient pas expérience dans la réalité que cette chose inouïe qui leur est annoncée, ils vont être Israël, à la source d'Israël, se réalise vraiment. Alors que les fils ont, a posteriori, l'expérience de l'histoire qui dévoile que c'est comme ça que c'est, quelles que soient les difficultés. Donc, chez les fils, il n'y a pas tellement de mérite de croire. C'est chez les pères qu'il y avait un mérite de croire, parce qu'ils n'avaient aucune preuve à l'avance. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Okay. Alors, vous pouvez le rattacher à cette expression, le scout à vôtre. Je voudrais ajouter une chose, c'est un peu un ridouche, mais si ce n'est pas clair, vous direz que j'explique plus. Mais je crois que ça vaut la peine d'entendre cela. Et, vous savez, dans la Hazara du vendredi soir, ce n'est pas une Hazara, c'est mais en Shiva, vous apprendrez ce que ça veut dire. C'est un sipour trop long, c'est dommage de perdre un quart d'heure pour ça, mais non. En principe, on ne fait pas de répétition de la Hamida le soir. Mais le vendredi soir, on a gardé une sorte de répétition de la Hamida, on vous expliquera historiquement pourquoi. Et là, il y a une expression qui résume le texte de la Hamida elle-même, et qui est « Magenavot bidbaro, mechayemetim bemahamaro ». Vous vous rappelez de cela, je suppose. Alors, dans le pshat, on dit à Dieu qu'il est Magenavot Bidvaro, il protège les pères par sa parole, d'abord, Mechayemetim Bemahamaro, et qu'il ressuscite les morts, qu'il fait vivre les mortels, et donc à la limite ressuscite les morts, Bemahamaro par sa parole. Ça résume la deuxième et la troisième bracha du Shmonesre. La première partie de l'expression, c'est la bracha de Avot, et la deuxième partie, c'est la bracha de. Non, c'est dans la même, dans la deuxième bracha, Mechayameti. Okay. Et alors, le pshat est donc clair. On dit de Dieu qu'il est Magenavot, et que ça veut dire Magenavot, et On peut l'expliquer comme ça. Il protège les pères par sa promesse. Ça veut dire que les pères doivent être protégés parce que leur aventure est très exposée. Ils entendent une promesse inouïe, invraisemblable. Et c'est pourquoi on peut comprendre de cette manière, lorsqu'Abraham entend le premier message, c'est toi, c'est par toi que ça passera, il dit moi. Vous comprenez un peu l'idée. Et ça veut dire qu'il doute de Dieu, mais il est perplexe sur lui-même. Alors, à quel point c'est une maladie juive, c'est par la suite. Okay. Et donc les pères doivent être protégés. Et qu'est-ce que ça veut dire, Mechayemetim et Mahamaro? Alors là, je voudrais vous transmettre un enseignement, vous le mettrez entre parenthèses, mais c'est lié à des sujets. Celui qui est capable de protéger les pères dans sa parole, alors est capable de ressusciter les morts dans sa parole. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ah, il ne s'agit plus d'une phrase que l'on dit de Dieu. Mais celui qui, disons, dans l'enseignement de la Torah, même pas, le Maharal explique à propos d'autre chose, mais c'est lié, une vertu, ce n'est pas seulement quand on étudie la Torah qu'on est vertueux. Une vertu, c'est dans la vie en général. Celui qui, en général, lorsqu'il parle, parle d'une manière telle que ça protège l'honneur des pères, alors il est capable de ressusciter les fils qui sont comme des morts en parlant. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Bon, alors je reviens donc à ce principe. C'est qu'il n'y a pas eu doute, mais il y a eu ce que j'ai appelé fléchissement de la confiance, et en particulier c'est chez Sarah que l'initiative est prise. Mais effectivement, Abraham confirme, réalise, il prend Agar, il lui fait un fils qui est Ishmaël, et les tsarot commencent pour Israël. Alors ça, nous allons lire ce passage-là, qui nous montre les rabbins du Zohar, c'est les mêmes que ceux du Talmud d'ailleurs, mais ici on a un texte du Zohar, étaient très conscients que la principale difficulté de l'histoire d'Israël va commencer avec Ishmaël. Il y en a d'autres. Je vous ai parlé de Amon, de Moab, Lot, Nimrod, Esav, Laban, Abimelech. Si on a de temps encore aujourd'hui, on s'occupera d'Abimelech. Je pense que, comme Joseph m'a dit, vous avez déjà préparé les sources. Mais Ishmaël, on voit bien que c'est Ishmaël qui cristallise le monde entier contre Israël. Or, ça commence depuis le commencement. Et justement, la katnout, la petitesse des responsables contemporains, je ne veux pas les situer, qu'ils soient religieux, politiques ou éducatifs ou autre chose, c'est de feindre, de prendre le problème que nous avons avec Ishmaël en horizontal. C'est-à-dire comme si ça commençait en 1917 ou en 1948. Ça commence il y a 4000 ans. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Et il est impossible de traiter ce dossier, fût-ce à l'ONU, fût-ce n'importe où, à la Knesset ou n'importe où, en feignant que nous avons un problème contemporain avec des Arabes qui, comme par hasard, habitent le pays où les Juifs reviennent. En réalité, c'est un problème qui commence il y a 4000 ans. Et si on ne voit pas cette hauteur-là, eh bien, on n'y voit rien du tout. Les Arabes eux-mêmes n'y voient rien. Mais eux le voient depuis il y a 4000 ans. Est-ce que c'est le sens? Alors, nous allons voir ce texte. Et encore, vous me rappellerez, quand on arrivera sur ce point-là, d'étudier quand même la distinction entre les Arabes et Ishmaël. Les Arabes sont dans le monde d'Ishmaël, mais Ishmaël n'était pas un Arabe. Mais ça, il faut l'étudier très en détail. Bien. Alors voilà, vous allez ouvrir votre texte de Bréchit au chapitre 17, verset 18. C'est sur ce verset que nous avons un passage du Zohar à la fin de la paracha Lech Lecha dans le Zohar. Alors c'est 17, verset 18. Voilà, prenez déjà au verset 16. Prenez déjà au verset 17, oui, ça suffira. Lorsque, en fin de compte, le temps est arrivé où Dieu révèle à Abraham que, ça y est, la maturité ou la maturation de Sarah et d'Abraham sont telles que Yitzhak peut être annoncé, alors nous avons le verset suivant. « Vaipol Abraham alpana » et Abraham tomba face contre terre. « Vaitzrak » et il rit. « Vaïomer » et il dit, Belibo en son cœur, « Aleben meashana ivalen » Est-ce que quelqu'un d'âgé de 100 ans peut avoir un fils? C'est une des dimensions de la perplexité dont je parlais. Dans ce rire, il y a beaucoup de choses. croyez pas qu'il rit pour se moquer. Hein. C'est un rire de joie. Et lorsque quelque chose d'inattendu, d'inouï arrive, il y a cette réussite de la liberté qui s'exprime dans le rire de la joie. Nous avons parlé de ça la dernière fois en comparant le rire d'Ishmaël et le rire d'Yitzhak. Ici, nous avons le rire d'Abraham. Hein. Et vous voyez quelle est la perplexité. Abraham se connaît comme ayant atteint un point irréversible de stérilité, mettez stérilité entre guillemets, trop vieux, c'est fini, c'est trop tard, ça passe ailleurs. C'est invraisemblable. Il se connaît comme une fin d'histoire et on lui annonce qu'il est le commencement d'une histoire féconde. Vous voyez la difficulté d'entendre ce message. Et comme je vous ai indiqué peut-être un peu rapidement la dernière fois, les Juifs ont vécu cela à travers leur histoire, surtout les dernières centaines d'années de l'exil contemporain, à partir de la Révolution française, de la Renaissance. C'est évident, la communauté juive se connaît comme quelque chose de très vieux, chez qui, il y a longtemps, l'esprit a soufflé, pour parler comme les Français, et puis voilà, c'est fini, ça passe ailleurs, alors on reste fidèle, mais on n'y croit plus, et alors ça vous explique la catastrophe de l'assimilation du judaïsme européen, le plus pieux apparemment y compris. C'est-à-dire que ce soit l'Europe occidentale, l'Europe centrale, l'Europe orientale. Et cette tentation de faire passer les valeurs d'Israël à travers une autre culture. Par exemple, les Juifs français au moment de la Révolution française étaient persuadés que Dieu s'était choisi la France pour remplacer la nation d'Israël. Et c'est la même chose. En tout cas, c'est très parallèle. Sarah qui propose Agar à Abraham. Et je voulais ajouter quelque chose, mais entre-temps, ça m'a échappé, c'est dommage. Ça me reviendra peut-être. C'est cette espèce d'expérience que on ne doute pas des valeurs d'Israël, on doute de soi en tant qu'Israël. Peut-être ça passe plus par les Juifs. Peut-être que le véritable Israël, c'est la gauche. C'est la gauche prolétarienne. C'est toutes ces ch'touillottes là que les humanistes juifs... se sont gargarisés avec ça pendant des siècles. Alors, regardez par exemple l'exemple du judaïsme russe. Un judaïsme très fort. S'il y a encore une entité du peuple juif ashkénaze, ça ne vient pas des Allemands, ça vient des Russes. Et s'il y a un État d'Israël, ça vient des Russes, je veux dire des Juifs russes. Alors, regardez, à la Révolution d'octobre, cette espèce d'éblouissement des Juifs russes, de l'intelligentsia juif russe, ils sont tous devenus marxistes, communistes, bundistes, tout ce que vous voudrez en liste. Et comme des papillons qui se jettent sur une flamme, qui reconnaissent, mais ce n'est pas la leur. Et si vous lisez cette histoire de la communauté juive, de l'assimilation des Juifs d'Europe de l'Est, mais surtout des Juifs russes, avec cette naïveté de la croyance au socialisme, malgré l'évidence de tous les échecs, que c'est vraiment un totalitarisme chaque fois que ça prend le pouvoir, et on continue quand même, et au nom de l'identité juive, alors que c'est qu'on renonce en tant que juif, c'est en tant que russe qu'on le fera, pas en tant que juif. Est-ce que vous comprenez ce... Et alors on a mérité des miettes, on a eu quelques petits Ben Gurion, Golda Meir, tout petits, qui ont fondé l'État d'Israël. Ça vient de là-bas. Mais si on avait eu l'intelligentsia russe à la tête du pays, et pas ces petites miettes qu'on a eues. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alors, imaginez que c'est la même chose avec les Juifs français. Je connais un peu la société juive française depuis 40 ans. Vous n'avez aucune idée des valeurs colossales que cette communauté de Juifs donne à la France, des valeurs sociologiques, intellectuelles, de cadre. Hein, c'est colossal. Et puis, il y a des bribes qui nous arrivent. On n'a même pas encore un ministre originaire de France. Mais imaginez que si on avait eu Mendès France comme ministre des Finances, au lieu de le balagan que nous avons au ministère des Finances depuis 40 ans. C'est là ? Il fait des Nissim, oui. Ça c'est Rémès, regarde tout ça bien, parce que Nissim. Mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Vous connaissez cette histoire, alors elle est authentiquement, je crois qu'elle est souvent entendue à propos de n'importe quelle gloire juive du monde, mais authentiquement c'est venu de Mendès France. C'est quand Ben-Gurion avait demandé aux sages du peuple juif, il y a 35 ans, de leur donner leur avis, à Ben Gurion, de lui donner leur avis de, oui, sur la question qui est juif. C'est une question ancienne. Ne croyez pas qu'elle a 35 ans, elle a 4000 ans. Et alors, Ménès France a répondu, je suis premièrement socialiste, deuxièmement français, troisièmement juif. Alors Ben Gurion lui a dit, c'est pas grave, mais on écrit à l'envers, de l'autre côté. Et alors, pour vous donner cet exemple, d'ailleurs pour être sûr qu'il était français, alors que sa famille est originaire du Portugal, Mendes, alors il a mis Mendes France, comme ça c'est clair. Bon, c'était un grand homme que j'ai connu personnellement, c'était un grand ministre, ça aurait pu être un grand juif, et à la tête d'un grand ministère en Israël. Je ne crois pas qu'il aurait été président de la République, parce qu'il faut être Ashkenaz pour ça, dans la génération. Mais il aurait été un grand ministre. Bon, je referme la parenthèse pour vous expliquer ce qui s'est passé pour les juifs russes. Eh bien, c'est ça que la Torah nous enseigne pour Sarah. Et, est-ce que c'est clair? Alors, on va voir comment les rabbins du Zohar ont réagi à ce sujet. Alors, je continue le verset. Haleven me'ashana yivaled. Est-ce que quelqu'un âgé de 100 ans peut avoir un fils? Veim Sarah. Et est-ce que Sarah, abat tishim shana telet, qui a 90 ans, peut enfanter? Et alors, vous voyez que le doute n'est pas en Dieu. Il ne se demande pas, est-ce que Dieu ne peut pas faire un miracle? Bien sûr qu'il le sait. Aïk palé me'ashem davar. Il dit, mais est-ce qu'il va faire un miracle pour nous? Vous avez compris le problème? Donc. Alors, verset 18. Et voilà donc que Dieu vient de lui annoncer, ça y est, c'est arrivé, tu auras Yitzhak. Il a ri, c'est un prophète. Alors, Vayomer, on prend le verset 18. Vayomer, Abraham, Ela Elohim. Ela Elohim. Alors, Abraham dit à Dieu, Lou Ishmael Ichiel Efanech. Fais que Ishmael vive devant toi. Ça veut dire, voilà, c'est arrivé, c'est Yitzhak qui va naître. Ishmael disqualifié, qu'est-ce que fait Abraham? Il intervient, il dit, sauve Ishmael. J'ai compris le verset. Alors nous allons lire maintenant le passage du Zohar. Voilà, c'est donc un Zohar à la fin de Lech Lecha sur ce verset. Alors je vais vous le lire directement en hébreu pour ne pas perdre de temps avec la traduction de l'araméen. Nénach Rabbi Chia Ubacha. Lorsque Rabbi Chia est arrivé sur ce verset, il a gémi et il a pleuré. Patar Ve'amar. Il a commencé son enseignement et il a dit Vatehi Sarai Akara en la valad. Nous avons un verset qui dit et Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfantement. Vai alze, malheur à cela. Vai alzmanahu. Malheur à ce temps chez Yalda, Agar et Ishmael, où Agar a enfanté Ishmael. Ça, c'est donc ce qu'a dit Rabbi Chia. Amaré Rabbi Yossé, Velama. Rabbi Yossé lui objecte, et pourquoi? Hare Yalda Sarah Hakar, voilà que Sarah a enfanté par la suite, Vayala Ben Gezar Kadosh, et qu'elle a eu l'enfant de la postérité de sainteté. Amaré Rabbi Chia lui répond, Ataroé Vaniroé. Toi, tu vois une chose, mais moi, je vois une autre chose. Mais qu'est-ce qu'il y a entre eux? Rabbi Chia se plaint. Il dit les malheurs qui sont venus de là. Et on va voir la suite. Malheur, quand ça a commencé, lorsque ce dont parle le verset, lorsque le verset dit Sarah ne pouvait pas enfanter. Alors, on sait que c'est de là que vient finalement Ishmael. Alors, Rabbi Yossé dit mais pourquoi tu pleures? Sarah a fini par enfanter. Alors, Rabbi Chia lui répond tu vois un aspect des choses, moi je vois l'autre aspect des choses. Et on continue. Amarle ataroe vaniroe, vekar shamarti mipi chez Rabbi Shimon, et ainsi, c'est toujours Rabbi Chia qui parle, j'ai entendu de la bouche de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Reochai, Aïnyan, le sujet est ainsi, vealzani boche, et c'est pourquoi je pleure. Vai alzmanau, malheur à ce temps, chez les filles, chez Sarah nit hakeva, par le fait que Sarah a été empêchée d'enfanter, katou, il est écrit, va tomer Sarai et Abraham, verroulé, et Sarai dit à Abraham, bona al-shifhati, prends donc ma servante. Ou mi peneze. Si j'avais le temps, je vous ferai une parenthèse. Pourquoi ici on l'appelle la servante dans ce verset, alors que nous avons vu que la dernière fois on l'appelle la ama, l'aide maternelle. Vous vous rappelez de cela, okay? Bon, c'est une parenthèse. Ou mi peneze, amda asha'a le agar, Et à cause de cela, de cette initiative donc de Sarah d'avoir dit « Prends Agar, ma servante », littéralement, l'heure a joué pour Agar. La réchette de Sarah Gevirta pour hériter de Sarah, sa maîtresse. Ça veut dire, cette initiative, la naïveté de Sarah, c'est Agar va rester à sa place. Elle va donner une approximation d'Israq en attendant qu'Israq arrive. Mais Rabbi Shimon a enseigné, Agar n'a pas réagi comme ça. Elle a usurpé la souveraineté de sa maîtresse. Et vous voyez, je n'ai même pas la peine d'arriver jusqu'au temps contemporain, que c'est ce qui va accompagner la revendication d'Ishmaël contre Israël à travers toute l'histoire. Ve'ayala ben me Abraham, elle a eu un fils d'Abraham. Il s'agit de Agar. Ve'Abraham Amar, alors Abraham a dit, Lou Ishmael Echie Lefanecha. De grâce, Lou fait que Ishmael vive devant toi. Le verset que nous avons lu. Et Dieu a accepté la prière d'Abraham. Ça veut dire qu'il y a Abraham a pris l'initiative, bien qu'il s'agissait, si vous voulez, d'une takala, comme j'ai dit une fois, d'un incident de parcours, cette naissance d'Ishmael, de lui donner effectivité dans l'histoire. Ve'afalpi. Et bien que chez Akadosh Baruch Hu, que Dieu, Ayam et Vasser, lui annonçait à l'Itsrak, lui parlait d'Itsrak, Itdabek Abraham et Ishmael. Abraham s'est attaché à Ishmael. Alors, à vue humaine, c'est facile à comprendre, un fils, c'est un fils pour un père qui est un père. Or, Abraham, c'est son nom d'être père, Abraham. Okay? Alors, il est le père, il a un fils, c'est son fils. Mais vous voyez, qu'est-ce qui nous a valu cela? C'est ce fléchissement de la confiance, et je répète ça, c'est important de le diagnostiquer. Et c'est indéniable que cette dimension de perplexité grave dans les conséquences fait partie du psychisme juif, de la conscience juive. Il n'y a pas un peuple qui est plus masochiste que ça. J'emploie un mot peut-être qui vous paraît trop dur, mais il est encore trop faible. C'est-à-dire un peuple qui doute de lui, comme les juifs. Je vais peut-être essayer d'expliquer cela. L'identité juive est interpellée par une destinée inouïe. Alors, au fond, c'est une réaction de défense de faire comme si, c'est moi qui ajoute faire comme si, c'est le cas de route, de faire comme si on en doute. C'est trop fort. Alors, on ruse. Est-ce que c'est clair? Je pourrais le dire, ça c'est un plaidoyer positif. On pourrait faire le plaidoyer négatif. Vous ne croyez pas que les juifs sont privés d'Yetzerara, de mauvais penchants. Dafka, d'après la Torah, enfin d'après la Torah, les sources c'est dans le Midrash et dans la Gemara, et il y a tout un chapitre du Maharal dans Netivot Olam sur le Shara Gimel Chassadim. Il n'y a que les juifs qui ont Yetzerara. Chez les autres, c'est même pas ça. Mais c'est connu. Okay. Et effectivement, et on peut le comprendre comme ça. C'est la réaction de défense de la conscience juive devant cette interpellation d'absolu, c'est toi, et le monde entier s'est mis à genoux. Il faut être non-juif pour comprendre ça. Pourquoi les non-juifs se mettent à genoux devant l'image d'un juif? Ne croyez pas que je me réfère simplement à l'événement historique de la fondation du christianisme, mais chaque fois que l'humanité a eu besoin d'une espérance, elle s'est mise à genoux devant un juif. Et je pourrais vous en citer jusqu'aux juifs contemporains. L'embaumement embaumé de ce que a représenté Joseph dans l'histoire des nations. Alors vous avez tous ces noms de juifs que je ne vais pas citer, dont les juifs très naïfs se réclament, alors que c'est des cadeaux empoisonnés qu'on a donnés aux Goïm, et la liste est énorme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Goïm avaient besoin d'une espérance. Alors c'est dans le même cas. Alors, je crois que la réaction de défense des juifs, c'est ce que j'appelle souvent, je ne suis pas le seul, je suppose, l'humour juif. Et l'humour juif est très caractéristique. Ça consiste à ne pas se prendre au sérieux. Mais ça risque de mener à la limite du doute. Est-ce que c'est clair? J'ai une fois assisté, il y a au moins 30 ans, je ne me rappelle plus la date, mais enfin il y a très très longtemps, en Belgique, à un rassemblement des mouvements d'étudiants juifs. Et à l'époque, c'était la sécession du Congo belge. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, il y a des Belges parmi vous. Enfin, j'ai mal parlé, il n'y a pas de Belges, il n'y a que des Juifs ici. Je veux dire d'origine de la BAC. Et alors, c'était toutes les histoires de lutte tribale entre les tribus congolaises. Et alors, nous avions donc un rassemblement des responsables des unions des filles en juifs, imaginez, comme ça pouvait être congolais. C'est clair ce que je dis? Alors, il y avait des traductions simultanées, et les interprètes étaient belges. Si vous avez vu la stupéfaction de ces goïms qui traduisaient les débats des représentants... Et alors, il y en a un qui m'a dit, mais c'est pire qu'au Congo. Bon, alors pour vous consoler, vous comprenez, je veux dire, c'est Uluberlu, je ne sais pas quel mot j'ai employé, Uburoi. C'est affolant quand des Juifs discutent entre eux de l'identité juive. Alors quand les goïms assistent à ça, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là sont fous ou quoi? Alors je crois que la réponse est que c'est une soupape de sûreté pour ne pas devenir fou d'orgueil. Parce qu'effectivement, Israël, enfin le peuple juif, est interpellé par une telle interpellation que s'il ne réagit pas par cet humour de bonne santé mentale, il devient fou. Alors voilà, il devient fou quand même. Est-ce que c'est clair? Alors pour vous consoler, je vais vous raconter une histoire belge. C'est que quand a commencé la guerre linguistique entre les Wallons et les Flamands, dans les journaux du Congo, on parlait des luttes tribales en Belgique. Vous savez d'ailleurs que dans la lutte linguistique entre les Wallons et les Flamands, les Juifs étaient privilégiés parce qu'ils étaient des Belges. Ils étaient ni Wallons ni Flamands. Bien, alors je reviens au problème. Et voilà donc ce qui se passe jusque-là. Je continue. « V'Abraham amar, lou Ishmael yehye lefanecha, et Abraham a dit, Ishmael vive devant toi. V'afralpi, shakadosh baruch hu, et Abraham beserlo, al Yitzhak. » Alors, vous voyez ce que dit le Zohar? Alors que Dieu est en train de lui parler d'Isaac, il est né le divin enfant, si j'ose dire, mettez ça entre guillemets, Abraham lui dit, et les Arabes? Enfin, Ishmael. Vous avez compris le problème? Bon, vous voyez que c'est ancien, cette histoire. Et que la Torah a une opinion là-dessus. J'ouvre une parenthèse ici qui me semble importante. Quand vous entendez des gens même très pratiquants, très pieux, très noirs, qui vous disent, ça c'est des affaires politiques, mais ne mélangez pas la Torah là-dedans. Ben, vous voyez bien que la Torah a une opinion là-dessus. Est-ce que c'est clair? Et ce qu'il y a de très grave, c'est que vous avez ces gens-là qui vous disent que la Torah répond à tout, sauf à l'essentiel. J'explique. Et vous entendrez ça, la Torah, c'est la réponse à toutes les vies, de tous les détails de la vie quotidienne. Mais l'essentiel, qu'est-ce que la Torah pense des problèmes de l'histoire d'Israël? Ah, ça c'est pas Torah. J'ai compris ce que je veux dire. Et je sais très bien que je mets en question la position de très grands hommes dans la vie juive religieuse. Mais ça ne me gêne pas. Okay, ça veut dire que il y a ici une invraisemblance qui consiste à dire, pour n'importe quel détail, savoir si un os de poulet est cachère, c'est important. Okay? Il faut d'arat Torah. Mais pour ces problèmes-là, c'est shikul d'arat de chacun. Chacun qui fait partie d'une tradition politique goy différente. Et je ne vous citerai pas les partis auxquels je pense aux partis religieux, qui vous disent la Torah n'a rien à voir avec l'histoire d'Israël. Alors on ne sait pas de quelle Torah ils parlent. Et ils en profitent d'ailleurs pour nous rendre la vie impossible avec des détails sur d'autres domaines. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bon, alors vous voyez qu'il faut avoir le courage de voir les problèmes en face. Il y a ici une invraisemblance. La Torah ne s'occupe que de ça, depuis Bereshit, d'expliquer à qui les lois de la Torah ont été données, qui c'est Israël et quels sont ses problèmes. Et quand on vit ces problèmes, vous avez les dignitaires de la Torah qui vous disent « ça ne regarde pas la Torah ». Et ils ont des idées à eux. Et comme c'est des autorités rabbiniques, on dit « Ah, mais le rabbin tel a dit comme ça. » Mais c'est une idée d'un ignorant sur ce problème. Okay? L'os de poulet, il est compétent. C'est clair ce que je dis? Donc, à l'ordre du midi. À Harkar, Nimol, après cela, il a été circoncis, Venichnas Bibrit, à Kadosh. Là, il y a une erreur dans le texte. Attendez, je vois en araméen commencer. Non, c'est exact. Alors, il n'y a pas d'erreur. Après cela, il a été circoncis. Il s'agit d'Ishmaël. Vous allez voir d'après le contexte. Après être né, il a été circoncis. Et on se rappelle qu'il a été circoncis à 13 ans. Okay? D'où sa revendication. 13 ans, c'est l'âge de la majorité pour Israël. Okay? Alors que Yitzhak a été circoncis à 8 jours. Vous vous rappelez de cela? Okay? Alors là, il y a un thème important pour lui-même. C'est qu'il y a, par rapport à la Torah, l'islam est sur le seuil, c'est-à-dire toujours en retard, comme la lune et le soleil d'ailleurs. Lorsque un fils d'Israël arrive à la majorité, c'est le temps de la circoncision pour un fils d'Ishmaël. Vous voyez le décalage qu'il y a. Alors je reprends. Ahakar Nimol, après cela il a été circoncis, Venichnas Bibrit Akadosh. Et il est entré dans l'alliance de Akadosh Bohr. Il s'agit d'Ishmaël. Ad Shelo Yatsa Yitzhak Laolam, avant même qu'Isaac ne naisse. Vous voyez, il va y avoir un fait qui explique l'usurpation d'identité future. Mais quelle est la racine? Ce n'est pas une erreur de fonctionnement du monde. C'est un fléchissement de la confiance à l'origine, à la racine même de notre propre identité. Encore une fois, c'est un thème très important. Ça veut dire que ce qui pourrait nous paraître invraisemblable dans l'histoire des patriarches est éclairé par l'histoire des juifs. Et inversement, cette invraisemblance que nous vivons dans l'histoire des juifs est éclairée par le récit que la Torah nous donne de l'histoire des patriarches. Alors je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure en vous citant le Maharal, sans le citer d'ailleurs, c'est donc Baruch Hashem, que au niveau des patriarches, une vertu absolue. Mais lorsque cette dimension de vertu joue chez les descendants, elle joue en faute et non pas en vertu. Et je vais expliquer pourquoi. Mais retenez bien le principe. En faute. Et c'est pourquoi on a posé la question dans la Gemara, quelle faute avait faite Abraham que sa descendance a dû aller en exil? C'est ça la question. Okay? Alors la Gemara répond, il a douté. Bon, c'est le français qui dit il a douté. J'ai expliqué tout à l'heure que ce n'est pas un doute. Il a dit, Bame Edar ki Rachena. Il frise al Mirotar Shlavelevo. Il a dit, en quoi saurais-je que. Alors Dieu lui répond, ah, tu demandes en quoi saurais-je, Bame Edar, Yadoar Tedar, savoir que tu sauras que ta descendance sera exilée. C'est clair? Bon. On peut se demander, et pourquoi cette espèce de destin, savoir que tu sauras que ta descendance sera exilée avant que l'histoire d'Israël commence? Et alors, tous ceux qui expliquent, l'exil, c'est la punition d'une faute. Quelle punition de quelle faute? C'est décrété avant que l'histoire commence. C'est clair? Bon. Alors, parmi les trois réponses de la Gemara, j'étudie celle-là, ce verset-là, Bameda, en quoi saurais-je? Alors, Gemara explique ce doute, cette perplexité, je dirais, qu'il y a en Abraham, lorsque ça joue dans la descendance, c'est une faute. Voilà, c'est ça que je vais expliquer. C'est clair? Pourquoi? Eh bien, parce que Abraham, c'est pas Israël. Abraham est le tzaddik d'une vertu bien particulière qui est la Midat HaChesed. Or, le tzaddik de la Midat HaChesed doit se conduire comme Abraham se conduit. C'est clair? Mais, finalement, lorsque la descendance d'Israël apparaîtra dans l'histoire, c'est la descendance de la vérité, de l'unité des valeurs. Et se conduire comme Abraham, c'est une faute. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens de dire là. Okay? Et d'ailleurs, ça commence par une faute d'orgueil, se prendre pour Abraham. Je vous ai parlé la dernière fois de l'ascendant Shalom Arshav. Et chez les Datim, elle s'appelle Netivot Arshav. Netivot Shalom. Ou Ozve Shalom. Enfin, toutes ces choses-là. Et ça consiste à agir comme Abraham. Pour Ishmaël, c'est clair. Et sans argumentation qui tienne debout. Alors, où est la faute? C'est qu'on se prend pour Abraham. Et où est la faute? C'est qu'on n'est pas Abraham, on est Israël. Est-ce que c'est clair? Et alors, ça ne veut pas dire que de l'autre côté, agir que comme Yitzhak, c'est Israël. Israël, il faut attendre Jacob qui fait l'unité des deux. Alors, il y a une Torah pour Israël. Et qu'est-ce que la Torah dit? Alors vous avez aussi des tendances genre Yitzhak, c'est-à-dire la rigueur absolue. Tandis que la tendance Abraham, c'est le chesed absolu. Donc, en Abraham, c'est pas une faute, sa conduite, c'est une vertu. Mais dans sa descendance, si ça joue, c'est une faute. Est-ce que c'est clair? Et le Maharal, dans le même chapitre, explique et comprend que l'exil n'a pas commencé avec Abraham. Parce que si la faute était en Abraham, l'exil aurait commencé avec Abraham. Alors il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles il faut attendre la descendance de Jacob. Si cette faute joue, alors il y a exil. Alors cette faute a joué dans la famille de Jacob, il y a eu exil. Elle a joué à travers Joseph, qui a pensé que ce n'est pas sur la terre de la promesse que les promesses se réaliseront, que ça passerait à travers l'Égypte. Il est allé en Égypte. Alors tout le monde l'a rejoint en Égypte. Bon, c'est une paracha pour elle-même, un sujet assez énorme. Il y a une controverse chez les commentateurs. Quelle est la raison de la descente en exil de la famille de Jacob, qui a commencé l'exil? Finalement, le Maharal explique, c'est quand a joué ce qui, à la racine, est annoncé chez Abraham, quand ça a joué dans la descendance, que l'exil est punition d'une faute. Vous avez compris? Mais en Abraham, ce n'était pas une faute. Bon, c'est un sujet pas simple. J'ai essayé de l'éclaircir. Vous allez me dire, est-ce que c'est clair, okay? C'est-à-dire, lorsque nous avons cette tentation de nous conduire comme Abraham, c'est une faute. Alors qu'en Abraham, ce n'est pas une faute. Mais il faut se rappeler que la dimension Abraham, la dimension Yitzhak, c'est des dimensions intérieures préhistoriques de l'identité d'Israël, qui commence à Jacob Israël. Nous ne sommes pas la descendance d'Abraham, nous ne sommes pas la descendance d'Isaac, nous sommes la descendance de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Et c'est bien précis. C'est bien clair. Donc, la descendance d'Abraham, vous l'avez chez Ishmael. La descendance d'Isaac, vous l'avez chez Esav, dans le monde chrétien. La Torah, c'est Torah, Tzivalanu Moshe, Morasha, Kilat, Yaakov, Nekuda. Donc. Et alors, effectivement, chaque fois que ce doute d'identité apparaît dans la descendance d'Abraham, alors ça se dévoile et ça prend force d'acte. Et je voudrais vous paraphraser parce que le contexte, c'est le doute de est-ce que cette terre est la nôtre? Bamé Edar ki Irashena. Et le frère du Maharal, c'est Rabbi Chaim. Le Maharal, c'est Rabbi Yehuda. Et Ben Betzalel, qui a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaChaim, d'ailleurs, et qui a, je crois, 17 chapitres sur la galoute, et un de ces chapitres explique. Alors attendez, que j'ai pensé au 17 subitement en même temps. Il existe, oui. C'est que nous rendrons en fin de compte à la possession de la terre que ceux qui sont sûrs que c'est à eux qu'elle est promise. Et la descendance d'Abraham va ailleurs pour être et ne revient que lorsqu'elle est sûre qu'elle n'est pas chez elle ailleurs. C'est une explication de ce destin invraisemblable de l'exil des Juifs, okay, qui est très claire. Ça veut dire, as-tu doute que ce pays est à toi? Alors va ailleurs. Qui revient? Celui qui sait que c'est nulle part ailleurs qu'on veut, que Israël est chez lui. Est-ce que c'est clair? Effectivement, c'est comme ça. Et celui qui revient avec un doute finit par s'en aller. Et c'est vrai. Celui qui revient avec un doute repart. Et il envoie de... Comment on appelle ça? La Macbeth. Enfin, il s'achète une tombe en Israël. Et ça fait rentrer des devises, d'ailleurs. En tout cas, voilà quelle est la gravité du problème. Alors, je n'ai pas fini. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé, et si je le mets en évidence, c'est que vous aurez certainement l'occasion d'en parler pour répondre à la perplexité des goïms qui s'interrogent. Qu'est-ce que c'est que ce peuple? Finalement, au bout de 2000 ans, cette terre lui est rendue. Et puis, non seulement la majorité des Juifs ne sont pas là, mais l'immense majorité des Juifs discutent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est... Et alors, je crois qu'il faut savoir répondre à cela. Parce que c'est invraisemblable. C'est vraiment invraisemblable. Vous n'avez aucune idée, d'ailleurs, au niveau proprement politique, diplomatique, à quel point cela renforce la position des Palestiniens anti-israéliens. Disons de l'OLP, pour dire les choses par leur nom. Parce que L'argument de l'OLP, c'est de dire les Juifs, ce n'est pas une nation. Il y a longtemps que ce n'est plus une nation et cette terre est arabe. Et la preuve, c'est que les Juifs eux-mêmes ne la reconnaissent pas comme leur terre. Ils habitent ailleurs. Et je pense que c'est clair. Et je vous dirai plus. D'un point de vue plus profond, est-ce que vous avez lu la charte palestinienne, la Amana Palestinaïde? Eh bien, il faut la faire lire. Vous devez lire ce texte-là. Alors, les Palestiniens parlent exactement comme les Juifs orthodoxes. Le judaïsme, c'est une religion. Comme les Juifs orthodoxes. La Gouda d'Israël, Chas, Vermeulet, quelles que soient les apparences. Le judaïsme, c'est une religion. La terre d'Israël, oui, on verra quand le Messie sera là. On leur demande, et que c'est le Messie, ça pas. Encore une autre chose. Okay. La charte palestinienne dit la même chose. C'est un diagnostic parallèle. Okay. Sauf le Messie, bien sûr. Parce qu'ils ont bien compris les orthodoxes. Et c'est pas méchant ce que je dis. Et alors, voilà la gravité du problème. Alors maintenant, je vais vous conseiller un peu. Vous expliquer d'où ça vient invraisemblablement. C'est qu'il y a, dans l'identité d'Israël dès l'origine, une tendance à l'universel. Et c'est le seul peuple qui est comme ça. Il y a une tendance à l'universel qui, lorsqu'elle dérape, devient ce cosmopolitisme incompréhensible où, finalement, un juif dit qu'il est n'importe quoi, mais il est juif aussi. C'est ça l'universel. Seulement, lorsqu'il dit qu'il est n'importe quoi d'autre, il met entre parenthèses le problème juif de chaque temps d'histoire. Le problème juif du temps d'histoire aujourd'hui, c'est la terre. Et ça les empêche. Alors, de universalistes, ils deviennent cosmopolites. Et ça met entre parenthèses Eretz Israël. Est-ce que c'est clair ce que vous dites ? C'est quelque chose de très important ici, sur lequel il faut bien réfléchir. C'est vrai que dans l'âme juive, il y a une tendance à l'universel qui est la cause de ce dérapage. Or, ça se dévoile depuis qu'il y a la nation d'Israël. Et je vous répète ce que je répète très souvent. D'une certaine manière, vous êtes privilégié parce que vous êtes né après l'État d'Israël. Vous êtes rentré dans un monde où il y avait l'État d'Israël. D'une autre manière, vous êtes défavorisé. Vous savez, parce que c'était que le monde sans l'État d'Israël. Le peuple juif dispersé, un point. Sans la nation d'Israël. Eh bien, la nation d'Israël reconstituée dévoile que la tendance à l'universel des Juifs est très souvent fausse. Que c'est en réalité du cosmopolitisme. Et pas de l'universel. Est-ce que c'est clair? Alors répétez pas ça en public, parce que c'est l'argument des antisémites et ils ont raison. Quand ils accusent les Juifs d'être cosmopolites, alors que les Juifs se prétendent être universalistes. Et la preuve, c'est qu'ils sont cosmopolites dans la vie réelle. C'est le cosmopolitisme des multinationales, c'est des banques, du commerce juif, des intérêts des synagogues entre elles. Et si je parle aussi carrément, c'est pour gagner du temps et pour être précis. Ça veut dire qu'il y a une réalité cosmopolite qui enveloppe la valeur de l'universel, mais qui, au moment où la nation d'Israël se restaure, se dévoile comme étant que du cosmopolitisme, tout simplement. Et ça, les goyim le savent. Je crois qu'il faut bien réfléchir à ça. Or, tout ça, c'est là-dedans. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous comprenez quand... Non, je ne vais pas entrer dans les détails, mais prenez l'exemple du judaïsme allemand avant Hitler, prenez l'exemple du judaïsme français à la Révolution française, prenez l'exemple du judaïsme américain aujourd'hui, prenez l'exemple du rabbinat anglais aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Et alors, ça... Ça lève, quand tu dis ça en français, ça... Ça falsifie le détail de tous les textes. On vous fait lire les textes à la cosmopolite. Nous avons une mission chez les Anglais. Laquelle? Leur apprendre le cricket? Non, ça c'est les Américains. Nous avons une mission chez les Allemands. Laquelle? Leur fabriquer de la bière. Vous comprenez à quel point tout est tordu. Okay? En réalité, on gagne de l'argent chez les Anglais, on gagne de l'argent chez les Allemands. Et on apprend l'humour anglais et la raideur germanique. Vous devez vous demander qu'est-ce que j'ai mangé ce matin. Alors je reviens. Non, c'est le soir. Je reviens au texte. Alors c'est maintenant que ça va devenir encore grave, beaucoup plus grave. Et alors, je suis bien arrivé, on va faire une petite apsaka. Oui, et donc Ishmael.